Bonjour Didier Cornel.
Bonjour.
Qu'est-ce que l'association française transhumaniste ?
Donc l'association française transhumaniste Technoprog, c'est une association loi 1901 qui milite, on va dire, pour que nous débattions collectivement concernant l'ensemble des questions liées au transhumanisme dans l'optique favorable à un certain nombre de progressions technologiques, celles qui sont utiles aux femmes et aux hommes et celles qui sont utiles plus largement à la collectivité, donc dans une optique sociale notamment. Donc le livre que M. Roux, président, et moi-même, qui suis vice-président, avons écrit, c'est Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours, ce qui vous a poussé à militer dans cette association transhumaniste et à en devenir l'un des porte-parole ?
Il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé à qu'est-ce que sont les maladies auxquelles nous pouvons mettre fin. Pourquoi je me suis intéressé à cette question-là ? Parce que depuis 20 ou 30 ans, je verse une partie non négligeable de mes revenus à des organisations non gouvernementales pour lutter contre la faim dans le monde. Et je me disais toujours, c'est pour lutter contre la faim dans le monde et les maladies aisément évitables. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est en fait les maladies aisément évitables ? Et c'est là que, en faisant des recherches sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de scientifiques qui pensaient qu'il était possible de mettre fin aux maladies liées au vieillissement. Et c'est là aussi que j'ai, je dirais, découvert, parce qu'à l'époque, je n'en étais pas conscient, déjà il y a 10 ans, dans un pays comme la France, dans l'Union européenne, mais aussi sur l'ensemble de la planète, la première cause de mortalité, ce sont les maladies liées au vieillissement. Je suis arrivé au transhumanisme par là, et je me suis ensuite intéressé à toutes les autres questions. Mais donc je suis, je dirais, d'abord longévitiste, c'est vraiment pour moi la question la plus importante, au point de vue des enjeux, au point de vue de l'intérêt social. Et puis alors, il y a d'autres aspects dont je dirais le côté pile, donc les dangers, les risques, puis encore d'autres questions qu'on abordera certainement.
Question assez directe, pourquoi augmenter l'espèce humaine ?
Pourquoi augmenter l'espèce humaine ? D'abord, nous sommes tous déjà augmentés aujourd'hui, on est augmenté par l'écriture. Socrate disait, il y a plus de 2000 ans, il y a 25 siècles, il disait qu'il ne fallait pas utiliser l'écriture parce que c'était une forme d'abêtissement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ses écrits ont été repris ensuite par Platon. Lui-même, on n'a pas conservé des écrits directement de lui. Et il avait raison, en un certain sens. Chaque progression technologique a des aspects positifs et puis a des aspects négatifs. Et donc la première augmentation récente de l'histoire de l'humanité, c'est l'écrit. Avant ça, il y a eu le feu, avant même que nous soyons devenus humains. Et puis aujourd'hui, s'augmenter, c'est permettre de devenir plus humain. Et par rapport à ce qui, pour moi, mais aussi pour bien d'autres transhumanistes, est le plus important, les questions de longévité, c'est même pas s'augmenter au sens, on va dire, plus, mais c'est plutôt au sens plus longtemps. C'est rester humain plus longtemps. C'est permettre aux femmes et aux hommes de vivre, qui est quand même la valeur fondamentale de notre société, plus longtemps. Sachant que, pour le moment, ceux qui vivent le moins longtemps, c'est les plus pauvres.
La technique peut-elle tout résoudre ?
La technique ne peut pas tout résoudre. Il faut un environnement favorable, un environnement, on va dire, social. 2, ça n'est pas du tout une certitude que la technique va tout résoudre. Et 3, la technique peut aussi donner des résultats catastrophiques. Donc c'est ce que Nick Bostrom, qui est un des fondateurs du transhumanisme, appelle les risques existentiels, donc les risques qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité. Donc non, la technique ne peut pas tout résoudre, mais elle peut par contre résoudre beaucoup de choses. Et ça n'est pas incompatible, au contraire, avec d'autres progressions sociales.
Est-il désirable de vivre 1000 ans ?
Pour ce qui me concerne, je ne sais pas si je voudrais continuer à vivre dans 1000 ans. Mais en tout cas, je sais que je veux continuer à vivre autant que je veux continuer à vivre. Ça fait un peu évidence, mais vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, parfois, je me souviens d'avoir lu dans des textes opposés au transhumanisme, jusqu'ici, les femmes et les hommes ont bien décidé de mourir. Non, jusqu'ici, personne n'a décidé de mourir. Enfin, personne. Dans l'immense majorité des cas, nous mourrons suite au vieillissement ou suite à d'autres causes, mais pas parce que nous le décidons. Oui, il est souhaitable pour ceux qui le souhaitent, justement, pour ceux qui le veulent, ça ne doit pas devenir une obligation, de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, voire sans limitation de durée, parce que le droit à la vie est un droit fondamental.
Selon vous, le transhumanisme est-il un eugénisme ?
Le mot eugénisme a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et avant, et évidemment, il désignait l'élimination des plus faibles. Et dans ce sens-là, bien sûr que non. Dans ce sens-là, l'objectif des transhumanistes, mais ça va bien plus loin que les transhumanistes, c'est notamment pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui s'affaiblissent à cause des maladies liées au vieillissement, de leur permettre une vie plus longue. Donc c'est le contraire de l'eugénisme par rapport à cela. Une des questions qui se pose, c'est par rapport, on va dire, à tout ce qui est choix des enfants. Et là, ce qui est certain, c'est que la société française, aujourd'hui, dans le sens effectuer un certain nombre de choix, elle est déjà eugéniste dans le sens on décide de ne pas conserver les embryons, les femmes et les hommes, mais c'est surtout des femmes dans l'immense majorité des cas, si pas dans tous, je ne sais pas, qui font une analyse par rapport à la trisomie 21 pour le fœtus. Dans 97% des cas, ça aboutit à un avortement. Après, ça pose d'innombrables questions, hein, le choix des enfants blonds aux yeux verts ou bleus. Ça pose de nombreuses questions. Je pense qu'une société démocratique, comme l'est dans une grande mesure la société française, qui accorde de l'importance à chacun des citoyens, le risque de l'eugénisme au sens créer des enfants parfaits est extrêmement faible.
D'un point de vue plus anthropologique, la fragilité humaine est-elle une erreur de la nature ?
Le terme « erreur de la nature » signifierait qu'il y aurait des choix de la nature. Et donc, moi, je ne suis pas croyant. Ça rentre peut-être vite en passant. Il y a des transhumanistes qui sont croyants. Il y a des transhumanistes mormons, des transhumanistes chrétiens. Mais bon, ça sort du sujet. Donc, moi, je ne suis pas croyant. Donc, je ne pense pas que la nature ait un objectif. Et donc, votre question, c'est plutôt probablement, est-ce que vous pensez que c'est éthique de changer ce qui a été choisi par la nature? Et alors, à cela, la réponse que nous répondons tous, oui, nous considérons que s'il est possible d'éviter aux enfants en bas âge de mourir, nous devons le faire. Oui, nous pensons que si une personne âgée qui est tombée dans la rivière doit être sauvée, même si on n'a pas d'intérêt à le faire, et même si c'est la nature, nous pensons qu'il faut le faire. Donc, ce qui est réalisé, même si ce n'est pas le terme, par la nature n'est pas nécessairement une bonne chose. Ceci étant, il faut bien sûr être extrêmement prudent par rapport à ce que nous changeons, parce que ce qui est naturel, évidemment, a, entre guillemets, déjà été testé par la nature pendant des millions d'années, tandis que ce que nous voulons changer n'a par définition pas encore été testé.
L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'homme?
Le premier développement, c'est parmi les personnes qui étudient l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de gens qui pensent que non, l'intelligence artificielle ne va jamais dépasser l'humain. Dans ce cadre-là, le risque pour l'humain est relativement faible. Il y a d'autres scientifiques, dont des gens qui sont transhumanistes ou proches du transhumaniste, qui estiment que l'intelligence artificielle va un jour dépasser l'intelligence humaine. Par rapport à ça, je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre de choses, mais la première, c'est attention, nous sommes quasiment impossibles d'imaginer une intelligence artificielle supérieure à l'humain ou même proche de l'humain qui ne soit pas consciente. Ça ne va pas nécessairement se passer comme ça. On peut avoir des mécanismes qui sont de l'intelligence, donc de la capacité à raisonner ou en tout cas de la capacité à résoudre des problèmes qui est supérieure à l'intelligence humaine sans avoir la conscience de soi. Et par rapport à cela, ça peut être extrêmement dangereux parce que ces mécanismes de raisonnement dépassant l'intelligence humaine n'auraient pas un certain nombre de raisonnements que nous avons de manière intuitive, donc tout ce qu'on appelle le bon sens. Je pense que c'est notamment Nick Bostrom qui avait donné cet exemple-là. On donne à l'intelligence artificielle l'ordre de créer un maximum de paperclips, c'est quoi encore en français ? De trombone, peu importe. Et donc, comme l'ordre est de réaliser un maximum de trombones, il va détruire la planète en passant, si on peut dire. Ça a l'air extrêmement farfelu de science-fiction comme hypothèse, mais ça fait partie des hypothèses qui, pour moi, prouvent qu'il faut prendre beaucoup de précautions par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Et parmi les transhumanistes, il y a probablement une majorité, même parmi aussi les gens, les spécialistes de l'intelligence artificielle, il y a probablement une majorité des gens qui pensent qu'il y a plutôt relativement peu de risques, et il y a plutôt une minorité des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de risques. Moi, je suis plutôt dans la seconde catégorie, mais après, c'est très long.
Faut-il légiférer ?
Oui, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de règles, dont des règles légales. Parmi les très nombreuses difficultés, il y a que ces développements ne se font pas à l'échelon français ou belge. S'ils se faisaient au niveau européen, ce serait encore simple, mais ils ne se font pas au niveau européen. S'ils se faisaient au niveau, on va dire, Europe-États-Unis, ce serait déjà plus complexe, mais on pourrait encore imaginer des législations relativement facilement, mais ça se fait aussi au niveau des pays asiatiques. Et donc, il est souhaitable de légiférer, mais ça n'est absolument pas simple. Et par contre, Ça, c'est une de mes opinions centrales. Par contre, il est possible, de manière collective, de décider qu'on va utiliser l'intelligence artificielle dans un certain nombre d'objectifs. Et donc, ça ne vous surprendra pas, vu ma position. Moi, je suis en faveur d'utilisation prioritaire de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est dans le domaine de la santé, pour toutes les raisons que j'ai déjà dit maintenant, parce que je pense que c'est précieux, etc., mais aussi parce que si l'intelligence artificielle est, entre guillemets, formée à des recherches dans le domaine de la santé, les risques que ça se passe mal sont quand même moindres. Mais attention, ils ne sont pas nuls.
Jusqu'où pousser la recherche ?
Pour moi, jusqu'à ce qui permettrait, dans le domaine de la santé, une vie sans limitation de durée, et jusqu'à très loin pour ce qui concerne l'analyse des risques. Ceci étant dit, pour continuer sur ce que je disais avant par rapport au développement, ne soyons pas naïfs, il y a aussi des développements dans le domaine militaire, et ces développements dans le domaine militaire posent des immenses questions. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent le DARPA, c'est l'organisme militaire américain chargé de la recherche de rupture. Donc le DARPA est relativement connu dans les milieux spécialisés. Par contre, le DARPA chinois, personne ne connaît. Ça fait partie des choses inquiétantes. Je ne sais même pas s'il y a un DARPA chinois. À noter que dans le discours tout récent d'Emmanuel Macron, votre président de la République, donc au Collège de France, c'est vraiment il y a 2 ou 3 jours, ou en tout cas dans le rapport, une partie concernant l'armée et une grosse partie concernant les soins de santé, partie que j'ai trouvée assez positive, même si la question du vieillissement n'est pas abordée directement.
Vous êtes un militant aussi écologiste, vous avez des convictions écologistes. N'y a-t-il pas une contradiction entre l'écologie et le transhumanisme, en termes notamment de place des valeurs, de soucis de la nature et de l'articulation entre l'éthique et la science?
Pour moi, non, au contraire. Nous avons à l'intérieur de l'AFT plusieurs militants écologistes. Moi, je suis membre, pas super actif, mais quand même actif du mouvement qui s'appelle Écolo en Belgique francophone et Groen, qui veut dire vert tout simplement, en Belgique néerlandophone. Et parmi les questions qui se posent, il y a les questions environnementales. Et parmi, j'insiste, les solutions en matière d'un environnement durable, il y a des solutions technologiques. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les solutions technologiques. Je suis totalement conscient, notamment lorsque vous avez des progrès technologiques qui induisent qu'il y a une moindre consommation, il y a aussi une tendance en même temps à consommer plus, qui pose problème. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de domaines dans lesquels l'effet rebond est interrompu. Donc le fonctionnement d'un smartphone pendant toute une année est égal au fonctionnement d'une lampe ancienne, je suis assez vieux pour me rappeler du temps, 100 watts pendant 24 heures. Donc ça vous donne un échelon. Donc, dans le domaine informatique, je pense qu'on a passé le stade dans lequel on est en train de diminuer. La question probablement la plus importante aujourd'hui, c'est la question du réchauffement climatique. Par rapport à la question du réchauffement climatique, ça comprend comment avoir des énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, pour les faire fonctionner de meilleure manière, les questions technologiques sont très importantes. Donc, notamment la question, non pas de la production, mais du stockage de l'énergie, donc les batteries. Par rapport à cela, il y a des progrès qui se font. Donc vous savez très probablement qu'un 1/10 de l'énergie qui vient du soleil est équivalent à ce qu'on consomme comme énergie dans le monde aujourd'hui. Donc arriver à stocker cette énergie est une des questions de base. Après ça, je n'ignore pas qu'un certain nombre d'écologistes considèrent que, on va dire, il ne faut pas toucher à l'humain. Et ça, je pense que, d'une part, c'est une erreur. D'autre part, soyons aussi clairs, le nombre d'écologistes qui sont cohérents avec ça est à peu près égal à rien. Je suis assez vieux pour me souvenir du temps où un certain nombre d'écologistes disaient qu'il ne fallait pas utiliser le téléphone intelligent, des choses comme ça. Et en fait, finalement, les écologistes, et c'est tant mieux, l'utilisent autant, si pas plus, que les autres.
Ne voyez-vous pas dans le transhumanisme des menaces pour le respect de l'altérité ? Donc on parle notamment d'une certaine peur du corps, une maximisation de l'esprit, une volonté de puissance exacerbée, mais également le risque de nuire à l'importance des relations humaines. Donc on voit une numérisation de la vie qui se développe, une existence digitale. On parle même du concept de tech-existence, une existence assistée par la technologie, qui serait englobante, voire totalitaire.
Certainement que les développements technologiques, y compris enfin, ceux auxquels sont favorables les transhumanistes, comportent des risques. Toute nouvelle technologie comporte des avantages et comporte des risques. Par rapport aux risques, bon, on a déjà cité les risques militaires, les risques aussi d'un contrôle accru. Mais il y a aussi des possibilités ouvertes, des possibilités de plus de diversité, des possibilités de plus de ce qu'on appelle aussi la surveillance, et notamment les aspects, on va dire, de contrôle des citoyens qui peuvent contrôler l'État et la puissance publique. Et alors, on reproche parfois aux transhumanistes, d'une part, d'être trop individualistes. Ça arrive pour un certain nombre, mais je pense que ce n'est pas la majorité. Et puis, d'un autre côté, on leur reproche une société où tout le monde serait trop interconnecté. Nous sommes indiscutablement dans une société qui est de plus en plus interconnectée. Ça comprend indiscutablement des risques, mais pour moi, ça comprend aussi des aspects positifs. Un des aspects positifs étant, dans une société dans laquelle nous sommes de plus en plus dépendants les uns des autres, nous avons tendance, on va dire, automatique, à aussi devenir de plus en plus solidaires les uns des autres, puisque le fonctionnement global est indispensable. Après ça, on n'en a pas parlé encore, mais il y a le champ de tout ce que je mets avec le terme « vertige ». Toutes les questions vertigineuses, brain in a box, etc. Donc la possibilité, un jour envisageable, mais absolument pas certaine, de simuler le fonctionnement du cerveau et puis exactement le fonctionnement du système nerveux dans son ensemble, et donc d'avoir, on va dire, un esprit, mais c'est pas le bon terme, et des consciences sur un support informatique. Ça, alors là, on atteint le champ des vertiges qui avait déjà été... par pas mal d'aspects envisagés par le passé, notamment par Teilhard de Chardin et d'autres proto-transhumanistes. Moi, je pense que pour le moment, plus on peut se contenter d'utiliser toutes les progrès technologiques pour finalement permettre aux femmes et aux hommes tels qu'ils sont aujourd'hui de vivre sans limitation de durée en n'étant pas tellement différents dans un monde plus automatisé, c'est-à-dire où le travail qu'on ne souhaite pas n'est plus nécessaire, mieux c'est.
Vous parliez de Teilhard de Chardin à l'instant, mais oui. Le transhumanisme est considéré comme une nouvelle religion, une techno-utopie. D'un côté, on se débarrasse de la finitude humaine. D'un autre côté, on fascine avec une nouvelle conception du monde. Que répondez-vous à cela ?
Je réponds à cela que la question de la finitude, la question de l'inévitabilité de notre mort, et donc aujourd'hui on sait précisément que c'est à peu près 120 ans, donc 122 ans pour la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, cette question fait partie des interrogations philosophiques qu'on se pose effectivement depuis des milliers d'années. Après cela, il y a probablement deux différences fondamentales entre les religions et le transhumanisme. La première différence fondamentale, c'est que c'est dans les conceptions du transhumanisme, c'est l'être humain qui se modifie lui-même et qui arrive à s'améliorer, ce qu'on fait déjà dans une bien grande mesure. Donc, et vous connaissez probablement la phrase de Arthur Clarke, toute civilisation avancée est indissociable de la magie. S'il y avait un Romain qui arrivait ici, il ne comprendrait rien à ce qui se passe et il pensait que c'est de la magie. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence fondamentale est les transhumanistes, même si ça peut arriver qu'il y en ait qui simplifient les choses en disant c'est inévitable, etc. Les transhumanistes ne pensent pas que ces évolutions sont certaines. Donc si je pensais que les évolutions étaient inévitables, certaines et pour moi positives, j'irai jouer à la patente, je ne viendrai pas participer à des conférences, donner des interviews. En tout cas, pour ce qui me concerne, et je pense en tout cas pour beaucoup de transhumanistes francophones et autres, ça n'est pas du tout certain ce qui va se passer. Une des phrases que j'aime bien, c'est « Aujourd'hui, nous vivons le plus beau jour de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vécu aussi longtemps, aussi bien, avec autant d'accès à des biens matériels, etc. » Mais aujourd'hui, c'est aussi le jour le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu autant de risques dits existentiels, les risques environnementaux, les risques nucléaires, les risques de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui va se passer dans les décennies à venir, ça pourrait être extrêmement positif, ça pourrait être extrêmement négatif. Et par contre, je pense que la probabilité que ça ne soit pas tellement différent est faible.
Vous parlez du transhumanisme comme favorable à l'être humain ou du développement des technologies, mais est-ce qu'au contraire, en parlant des risques naturel, écologique dont vous venez de parler, on n'arrivera pas à une sorte de forme de refus de la nature, du rapport au monde sensible, et on risque d'imposer, ou on va imposer des modèles excluants, donc avec un renforcement des inégalités et le développement d'une sorte d'ontologie cybernétique avec des dérives autoritaires et des pertes corrélatives d'autonomie.
Alors je ne pense pas, mais c'est peut-être un des cœurs du débat. Je pense que globalement, les progrès technologiques et les progrès éthiques vont de pair. Peut-être que vous connaissez le livre de Pinker, The Better Angels of Our Nature. C'est un livre dans lequel cet auteur explique pourquoi, au cours des deux derniers siècles, nous sommes devenus de moins en moins violents, de plus en plus respectueux des droits de l'homme. Donc, Si on regarde l'évolution de ces deux ou trois derniers siècles, je pense qu'il est, à mon avis, non discutable que nous avons un attachement aux droits humains qui est nettement supérieur, que ce soit enfin, le concept d'égalité entre femmes et hommes qui n'existait quasiment pas il y a deux ou trois siècles, que ce soit le respect des droits humains, la suppression en général de la peine de mort, le traitement des enfants, etc. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Et on pourrait même multiplier les exemples aussi en ce qui concerne la nature. Le concept de respect de la nature et de protection de la nature est un concept qui est relativement récent. Maintenant, évidemment, jusqu'à deux ou trois siècles, pas même, non, j'allais dire, jusqu'à deux ou trois siècles, la nature n'était pas tellement modifiée. Non, c'est même pas vrai. Jusqu'à, il y a deux ou trois siècles, la nature était déjà profondément modifiée. Mais il n'y avait pas la conception de protection de la nature en tant que telle. Quand on protégeait la nature, c'était exclusivement dans l'optique utilitariste, disons. Donc non, pour moi, sans nier que la technologie, encore une fois, peut être utilisée pour renforcer les inégalités. Ça n'est pas inimaginable que ça soit utilisé pour renforcer les inégalités. Ça n'est pas inimaginable, et c'est même déjà le cas en Chine actuellement, que ça soit utilisé pour renforcer des contrôles. Donc, par rapport à cela, un des aspects importants, c'est qu'il y ait des discussions dans les pays démocratiques, des investissements publics dans ce domaine-là pour que les recherches, notamment les recherches éthiques, ne soient pas monopolisées comme elles sont actuellement pour une grande partie par des sociétés comme Google, Facebook et les autres. Parce que pour le moment, la situation est, dans un premier temps, c'est Facebook qui décide finalement pour la majorité des Français probablement et la majorité des Belges certainement, comment se gère la vie privée. Mais par rapport à ça, les évolutions récentes sont plutôt positives avec notamment l'entrée en vigueur le 25 ou le 24 mai de la Réglementation générale pour la protection des données qui a déjà une influence pour Facebook. Et parfois on dit... Oui, de toute façon, nous sommes dépendants des États-Unis et donc, peu importe ce qu'on fait dans ce petit pays et dans l'Union européenne, on n'a rien à dire. En réalité, pour Facebook, ils vont probablement, c'est pas certainement, mais ils vont probablement s'incliner par rapport aux réglementations, la RGPD, et ils vont probablement appliquer ces réglementations partout dans le monde, tout simplement parce que c'est plus simple pour eux de faire partout dans le monde que d'avoir à s'offrir, entre guillemets, des procès un peu partout, parce que forcément, il y aura des citoyens européens qui se trouveront aux États-Unis et ainsi de suite. Et je ne sais pas exactement où on en est maintenant, mais en tout cas, il y a eu une condamnation de Facebook par rapport aux autorités européennes pour une somme qui, même pour Facebook, n'est pas négligeable. C'était plusieurs milliards de dollars, même pour Facebook, c'est pas rien.
Pour revenir directement au sujet du transhumanisme, on peut vous opposer que le transhumanisme créera une humanité à deux vitesses. Donc c'est la grande question de la fin de l'unité de l'espèce humaine.
Supposons que demain, pour prendre la société la plus avancée à ce domaine-là, actuellement Google Calico trouve la pilule pour l'immortalité. Ce ne sera pas comme ça, hein, je simplifie à l'extrême. Enfin, supposons par exercice de pensée que Google trouve une pilule qui permette de gagner 30 ans ou même plus de durée de vie et qu'elle soit propriétaire des droits. Google se trouvera devant un choix entre vendre extrêmement cher sa pilule, créer une société à deux vitesses et devenir la société la plus détestée de l'univers connu, ou bien vendre sa pilule à un prix tout à fait raisonnable et devenir la société la plus adorée de l'univers connu. Donc moi, je suis relativement optimiste, mais pas optimiste au point de ne pas me dire que c'est encore mieux si c'est des sociétés publiques avec des moyens publics et surtout avec une attention au point de vue des droits d'auteur et des droits de brevet qui fassent ces avancées. Mais donc, oui, il y a un risque de société à deux vitesses. Ceci dit, je reviens à mon smartphone, donc je suis plus vieux que vous. Ce smartphone, je suis suffisamment vieux pour me souvenir de l'époque où on disait « ne nous attardons pas trop à discuter de l'accessibilité, puisque de toute façon, ce sera toujours pour les riches. » Là, aujourd'hui, la majorité des citoyens du monde, adultes, ont accès à Internet via cet objet-là. Ça n'est évidemment pas... c'est pas le même accès entre Bill Gates et les citoyens les plus pauvres, mais c'est un accès qui est quand même... ils ont quand même le même accès à Google, globalement. Okay. Et alors, quand vous dites que ça n'est pas comparable avec les médicaments, oui, mais alors là, je vais prendre un autre exemple, c'est l'exemple des médicaments concernant le sida. Donc, les médicaments concernant le sida, on est passé en une grosse vingtaine d'années d'une situation dans laquelle c'était vraiment accessible uniquement aux plus riches, à une situation dans laquelle c'est aujourd'hui accessible dans un pays comme la France à peu près tous les citoyens, et même dans les pays d'Afrique subsaharienne qui ont le plus subi l'épidémie, à une partie importante de la population, je crois à peu près la moitié de la population.
Dans toute cette mouvance transhumaniste, est-ce qu'on ne nourrit pas le fantasme de demander à la science plus qu'elle ne peut ? On peut penser à une forme de néophilie, d'attirance démesurée pour la nouveauté, du transfert du sacré à la technique. Et ce qui semble paradoxal, c'est qu'en même temps, on réduit la raison à la seule raison scientifique. On demande d'un côté trop, et en même temps, on réduit la raison scientifique.
Dans un pays comme la France particulièrement, moi je pense qu'il y a quand même plus de peur vis-à-vis du progrès que d'attirance vis-à-vis du progrès. Ceci dit, c'est un peu comme l'attitude vis-à-vis de la mort, on n'est pas dans une moindre mesure, mais on n'est jamais sans ambiguïté vis-à-vis d'un progrès. Et ce qu'il y a, c'est que par rapport à des progrès technologiques, c'est surtout quand les citoyens ont l'impression qu'on leur impose cela qu'ils ont peur. Et quand ils ont l'impression de le choisir, ils sont plus attirés. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une vision parfois qui est le progrès technologique va régler toutes les difficultés ? Oui, ça peut arriver que nous ayons des espoirs qui se révèlent démesurés. Je pourrais vous citer des exemples. Ça peut aussi arriver que ce soit le contraire, qu'il y ait des choses, on ne s'imagine pas à quel point ça va changer la vie de manière globalement positive. Donc, globalement, la réponse pour moi est non, il n'y a pas une vision des citoyens ni des transhumanistes d'ailleurs. Les progrès technologiques vont tout changer et vont rendre demain le monde indiscutablement meilleur. Donc, encore une fois, pour moi, il y a d'abord cette question d'incertitude. Il y a ensuite cette question de on ne sait pas à quel rythme les choses vont se passer. Parfois, et même relativement souvent, on donne des transhumanistes une vision qui est caricaturale en disant ils veulent tous les progrès technologiques, ils sont favorables à tous les progrès technologiques, quels qu'ils soient, et ils disent que ça va tout résoudre. Et après ça, on leur dit alors que c'est faux. Mais vous pouvez aller voir sur le site de l'AFT Technoprog, vous ne trouverez pas, je pense, de texte dans lequel on dit tout va être réglé. Donc en tout cas, dans le livre que Marc Roux et moi, on a écrit, certainement pas. Pour être tout à fait honnête, ou plutôt pour rentrer dans la nuance, je ne sais pas, on n'a pas encore parlé de cela, et dans le domaine des vertiges, il y a le concept de singularité. Donc si à un moment l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine, là à ce moment-là on est dans une situation dans laquelle les choses deviennent, on va dire, inimaginables, et ce inimaginable pourrait être extraordinairement bon ou pourrait être extraordinairement mauvais, mais en tout cas c'est dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'un certain nombre de transhumanistes disent, ben voilà, il peut y avoir pour certains une dimension qu'on pourrait dire quasi-religieuse, c'est du genre, attendons la singularité, et la singularité va tout régler, les questions d'environnement, les questions de bien-être, les questions, etc.
Que répondez-vous par exemple à Peter Thiel, l'un des fondateurs de PayPal, quand il dit le transhumanisme est le seul projet d'avenir, un enjeu d'avenir sur lequel investir? Et là, on voit bien que c'est une vision purement hyper-capitaliste, on pourrait dire une vision d'ultra riches développés que par des milliardaires. Que répondez-vous par rapport à cela
Je réponds que, évidemment, Peter Thiel, qui est probablement le plus proche de l'extrême droite, ou en tout cas de la droite dure américaine, et donc le prototype du libertarien, donc c'est le deuxième transhumaniste que l'on cite le plus dans les adversaires après Ray Kurzweil, que cette vision, nous ne la partageons pas, que la vision que nous apportons, c'est ayons des investissements privés. Que de toute façon, aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe, nous sommes déjà dans un système capitaliste et que forcément, toute une série de réflexions sont apportées dans le régime capitaliste. Moi, j'entendais, pour prendre un tout autre débat partiellement autre, des gens qui reprochaient à ceux qui étaient favorables à l'allocation universelle de le financer par l'impôt et de dire « oui, mais vous financez ça par l'impôt et l'impôt est basé sur le capitalisme ». Oui, mais alors tout ce qu'on fait est basé sur le capitalisme, ce qu'on utilise comme matériel, etc. Il y a des gens aux États-Unis et ailleurs qui veulent faire de l'argent avec les progressions technologiques, certains dans des optiques de rupture, et puis il y a des gens en France et ailleurs qui veulent faire des ruptures technologiques qui sont favorables à l'ensemble des citoyens. Et ce qui va se passer est incertain. Ceci dit, beaucoup de progrès dans le domaine informatique, mais aussi beaucoup de progrès dans le domaine de la santé, coûte extrêmement cher pour la recherche, mais après ça, une fois que c'est là, ça ne coûte quasiment plus rien. Donc c'est pas Peter Thiel ou Elon Musk disaient « je veux que les riches puissent aller sur Mars », là, on pourrait se dire « s'il y arrive, ça va être que pour les riches ». Les technologies en matière de, toujours je reviens au smartphone, les technologies en matière médicale, si on y arrive, la différence de prix entre l'utilisation pour quelques-uns et l'utilisation pour des milliards de personnes est négligeable. C'est plus rentable de la vendre à tous, de la mettre à disposition à tous qu'à quelques-uns.
Comment percevez-vous les résistances, les luttes contre le transhumanisme ?
Je vais aller peut-être du mieux au pire. Le mieux, c'est les personnes opposées au transhumanisme qui disent « nous n'en voulons pas parce qu'il y a des risques fondamentaux pour l'histoire humaine ». Je suis tout à fait d'accord, il y a des risques fondamentaux pour l'histoire humaine, mais ne rien faire comprend des risques fondamentaux pour l'histoire humaine aussi. Et y compris ces risques-là. Il y a, tous les mouvements d'attachement à la nature, de défense de la nature, de défense de l'environnement. À ça, je répondrai ce que j'ai dit par rapport aux énergies renouvelables, à la protection de la nature, au progrès. Alors, il y a tout le domaine de la peur de ce que j'ai appelé les vertiges. Donc, et là aussi, je comprends. Et encore une fois, parmi les transhumanistes, il y a un certain nombre de transhumanistes qui sont plutôt pas pour ces choses-là et d'autres qui sont plutôt pour. Moi, je suis dans, on va dire, plutôt pas pour. Mais c'est un domaine vertigineux. Et peut-être une des choses que les anti-transhumanistes parfois ne perçoivent pas, c'est quand des transhumanistes ou des gens intéressés par les progressions technologiques disent ceci, ceci, ceci pourrait se passer, ça ne veut pas dire qu'on est favorable à ça. Je veux dire, moi je pense il y a toujours un risque absolument non négligeable que d'ici quelques semaines avec Trump ou avec d'autres il y ait une guerre nucléaire. Je pense que ce risque est extrêmement important. Je ne souhaite aucunement, et je pense quasiment personne d'ailleurs, ne souhaite une guerre nucléaire. Okay, donc décrire des choses qui pourraient se passer ne signifie pas. Alors après, il y a une part non négligeable des personnes opposées aux transhumanistes qui, en fait, disent fondamentalement il ne faut pas changer l'humain, il ne faut pas changer la nature. Ça, je pense que c'est une opinion qui est respectable pour les personnes elles-mêmes, qu'elles veulent rester elles-mêmes, mais qui par contre, lorsque ça amène à refuser aux femmes et aux hommes qui le souhaitent des progrès technologiques, est non respectueux de ces personnes-là. Et je remarque que dans les opposants au transhumanisme, particulièrement dans les questions de longévité, dans les questions de bioéthique qui sont pour le moment assez bien sur la table dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, je remarque que vraiment beaucoup des gens qui s'expriment professeurs d'université et tout ça viennent en fait du monde chrétien et souvent se cachent de ça. Hein, donc, et dans le mouvement écologiste, dans ceux qui ne veulent pas toucher, il y a aussi un certain nombre de gens qui sont issus du mouvement chrétien. Et alors, maintenant, pour passer, je dirais, au pire, il y a un certain nombre d'anti-transhumanistes qui ont décidé que le transhumanisme, c'était presque le diable, mais pas loin, et qui donnent du transhumanisme des définitions vraiment totalement caricaturales, sans même nous demander, quoi. Donc il y a eu un certain nombre de conférences, genre « La vérité sur le transhumanisme », dans lequel il n'y avait pas un seul transhumanistes qui étaient invités, on peut encore discuter, mais dans lequel aussi il n'y avait quasiment pas de transhumanistes cités. Donc là, mais ça s'améliore puisque cette discussion ici, la discussion que j'ai eue ce matin, les invitations qu'on a de plus en plus souvent, et donc là, de ce côté-là, je pense qu'il y a une modification positive et plus de dialogue qu'auparavant. En ce qui concerne la FT Technoprog, quasiment à chaque conférence qu'on a organisée, on a invité aussi des opposants. On a invité M. Ben Sayek, on a invité Jean-Michel Beignet plusieurs fois, et d'autres encore. Parfois, on nous demande, ou on voit, les transhumanistes sont très secrets. Donc, j'ai déjà vu ça dans des conférences. Les transhumanistes sont très secrets et ne souhaitent pas communiquer. Une conférence sur le transhumanisme où on n'est pas invité. Donc, non, on n'est absolument pas secret. Le site internet est là. On a une newsletter. On a écrit des livres et ainsi de suite.
L'opposition entre bioconservateurs et transhumanistes remplacera-t-elle l'opposition politique traditionnelle entre gauche et droite ?
Non. C'est une ligne de fracture qui s'ajoute. C'est dans une certaine mesure orthogonale. Donc il y a probablement aujourd'hui trois grandes lignes de fracture, deux qu'on peut qualifier de droite-gauche et une que l'on qualifie, nous, bioconservateurs, bioprogressistes. Mais on pourrait utiliser d'autres termes parce que... Enfin. Mais donc la ligne de fracture droite-gauche la plus classique, c'est la question de la répartition des revenus. L'autre ligne de fracture droite-gauche qui est déjà un peu moins classique, c'est, on va dire, l'acceptation des différences et le caractère libéral au sens américain du terme, ou le caractère plus démocratique, plus attaché aux libertés, versus le côté conservateur, tradition, etc. Et puis, donc, la troisième question est là. Mais on peut imaginer, et ça existe, généralement on utilise le terme populiste, des gens qui sont pour plus d'égalité, mais pour une société très traditionnel. On peut imaginer des gens qui sont pour plus d'égalité, pour plus de liberté et qui pensent qu'il ne faut pas changer l'humain. Il est probablement possible d'avoir 2, 4, 8 catégories différentes. Donc c'est orthogonal, sachant qu'il y a évidemment des liens.
Existe-t-il selon vous des alternatives au transhumanisme ? Est-ce que le transhumanisme est inéluctable ? En gros, est-ce qu'on pourrait prévoir autre chose ?
Les choses ne sont pas inéluctables. Utilisons le terme transhumanisme pour simplifier, mais donc l'utilisation des progrès technologiques pour l'intérêt commun peut se concevoir de différentes manières, et même à l'intérieur, même parmi les transhumanistes francophones. C'est l'association française transhumaniste Technoprog, mais en fait c'est une association francophone, donc il y a quelques personnes africaines, il y a des Suisses, il y a des Belges. Même à l'intérieur de cette association, il y a des différences d'opinion, notamment sur la question, on va dire, gauche-droite, même si on s'est clairement situé dans le camp, utilisons le terme progressiste au sens traditionnel de gauche qu'on utilise en France.
Quels sont pour vous les écrits fondateurs, les références du transhumanisme ?
Les transhumanistes américains ont fait pas mal de textes de base, des sortes de chartes qui sont utiles à retrouver, mais plutôt pour l'aspect historique. La personne qui, moi, m'a le plus profondément influencé, c'est donc Nick Bostrom. Donc, c'est un des fondateurs du transhumanisme et qui est la personne qui m'avait aussi convaincu quand j'ai commencé à m'intéresser à la question que j'ai citée tout à l'heure, donc, de la longévité. Aux États-Unis, évidemment, il y a Ray Kurzweil avec donc, le concept de singularité. J'ai dit toutes les nuances que nous avions par rapport à cette personne, mais qui est le plus connu probablement. Alors, il y a une personne qui avait pris comme pseudo FM2030, qui était un Iranien qui a vécu dans pas mal de pays, qui a écrit un certain nombre de textes de base concernant le transhumanisme, mais que je vous avoue que je n'ai pas lu. Ça, c'est pour le passé, vraiment le transhumanisme au départ. Après, il y a, je dirais, un certain nombre de proto-transhumanistes, des gens qui n'utilisaient pas le terme mais qui étaient déjà dans cette option-là. Je dirais, pour aller à l'extrême, le premier être humain qui a inventé le feu, ou c'était pas un être humain justement, c'était peut-être déjà un proto-transhumaniste, les premières utilisations de l'écriture. Mais pour prendre le passé récent, parmi les auteurs, il y avait Condorcet, qui est un des premiers à avoir imaginé un monde et une vie sans vieillissement. Puis il y avait le... Je ne tombe plus sur le nom, mais il y a un certain nombre d'autres auteurs français. Et alors, il y a du côté chrétien Teilhard de Chardin, et du côté chrétien mais russe, des penseurs russes qui ont créé ce qui s'appelait le cosmisme, par certains aspects relativement proches de Teilhard de Chardin.
Quel est l'état des avancées de la recherche, de votre point de vue ?
Alors, l'état des avancées de la recherche pour mon sujet favori des deux prochains siècles, la longévité. On comprend de plus en plus aux mécanismes de la longévité, mais on est encore très loin de pouvoir, on va dire, mettre fin à la barrière qui aujourd'hui est une barrière vraiment à peu près absolue de la durée de vie maximale. Donc la durée de vie moyenne progresse. Elle progresse moins en France et aux États-Unis qu'auparavant. Elle ne diminue pas, contrairement à ce qu'on dit, mais enfin, ça stagne. Elle progresse dans le monde de 2 à 3 mois par année. Par contre, la durée de vie maximale, elle, ça reste quasiment personne n'a aujourd'hui dans le monde plus de 115 ans. Et pour progresser là, il faudra soit comprendre le code génétique et avoir des thérapies géniques, soit progresser considérablement dans le domaine des nanotechnologies, soit peut-être, mais je suis déjà moins optimiste, dans la recherche de produits. Il y a un certain nombre de produits qui, lorsqu'on les donne, permettent de gagner quelques années d'espérance de vie, mais je ne pense pas qu'on arrivera à beaucoup plus. Donc, j'insiste là-dessus, justement, pour ne pas que les gens aient des faux espoirs. Ça n'est pas pour demain, ça n'est pas non plus pour après-demain, mais par contre, dans l'optique 5, 10, 15 ou 20 ans, là, ça dépend de combien c'est une priorité. Je donne toujours l'exemple entre la décision politique d'envoyer un homme sur la Lune et le premier homme sur la Lune, il s'est passé 8 ans à peine, 61-69. C'était pour des raisons géopolitiques de concurrence États-Unis et ASS à l'époque, mais ça a été une progression absolument extraordinaire. Et donc, si on fait de la fin du vieillissement une priorité, qu'il y ait un changement de paradigme, je pense qu'on peut y arriver en 10, 15 ou 20 ans. Pour le moment, un des freins considérables en Europe, mais aussi dans d'autres pays, c'est la législation extrêmement stricte sur les expérimentations médicales humaines. Et ça, je trouve que c'est une aberration, parce que si moi, aujourd'hui, et encore plus mon père, par exemple, qui a 85 ans, qui ne vivra plus très longtemps aujourd'hui, il donne son consentement informé pour chercher des choses pour l'intérêt collectif et pour son intérêt à lui, c'est pas possible, il ne peut pas le faire, les conditions sont extrêmement difficiles. Et donc, un des freins considérables, c'est l'absence de, on va dire, proactivité dans le domaine médical. Ça, c'est le domaine médical. Alors, l'autre domaine de l'intelligence artificielle dont on a parlé, ça, c'est pour moi, c'est vraiment donc les avancées de type Google, moteur de traduction, intelligence artificielle, vous les connaissez probablement aussi bien que moi, parce que c'est dans tous les médias. Par contre, combien ça va continuer à progresser, ça c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est vraiment difficile à dire. Je donnerai deux exemples, chacun dans un autre sens. Donc, quand IBM Watson, vous connaissez, donc IBM Watson a battu les meilleurs champions américains au jeu de Jeopardy, je me suis dit, là, on est vraiment à de l'intelligence artificielle qui frôle le large. Et donc, dans quelques années, on aura probablement sur Internet l'équivalent d'IBM Watson qui permettra de répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, il n'y a pas, quand je vais sur le moteur de recherche, ce n'est pas encore tout à fait ça. Par contre, les moteurs de traduction ou bien l'efficacité avec laquelle les moteurs derrière Google devinent tout ce qu'on fait, ça progresse à une vitesse quand même tout à fait remarquable et encore là, parfois vertigineuse. Donc là, c'est difficile à dire. Encore une fois, je dis ça, je dis que je ne sais pas, mais que ça, pour moi, ça n'est pas inenvisageable que cette intelligence artificielle plus forte que l'humain soit dans une durée 5 à 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que je le souhaite, parce que ça pose pas mal de questions.
D'où viennent les financements ? D'où vient l'argent ?
D'où vient l'argent pour le moment en matière de longévité ? Comme j'ai dit, ceux qui aujourd'hui ont perçu ce que j'appelle un changement de paradigme, donc que nous pourrions envisager de mettre fin aux maladies liées au vieillissement, c'est principalement des financements privés aux États-Unis et peut-être en Chine, mais c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment en Chine, donc avec Google Calico, avec Human Longevity Incorporated, avec peut-être dans une certaine mesure Facebook et la Chan Zuckerberg Initiative, avec IBM Watson. Maintenant, au niveau européen, c'est pas qu'il ne se passe rien, loin de là. Donc au niveau européen, on a quand même des scientifiques, des chercheurs médicaux assez exceptionnels. Miroslav Radman, Jean-Marc Lemaître, par exemple, en France. Et aussi, pour la recherche liée à Alzheimer et à tout ce qui est neurologique, le projet Human Brain, le Human Brain Project. Donc, c'est pas qu'on est nulle part, loin de là. C'est pour moi qu'il n'y a pas cette perception qu'on peut vraiment peut-être mettre fin au vieillissement.
Quelles actions menez-vous dans l'association AFT et dans l'AFT et comment diffusez-vous votre discours dans la société? Comment êtes-vous financé aussi? Comment vous financez-vous?
Nous n'avons aucun financement public et nous n'avons non plus aucun financement privé, si ce n'est les donations de nos membres. Donc concrètement, par exemple, enfin moi je verse une petite partie de mes revenus pour pouvoir financer le déplacement ici, par exemple. Et donc nous intervenons à de nombreuses conférences. Ces conférences, sauf rares exceptions, il n'y a pas de rémunération et il n'y a même pas de défraiement. Et puis nous avons un site internet, nous avons une lettre mensuelle, nous organisons nous-mêmes des conférences nous intervenons dans les médias. Donc tout ça nous coûtant en fait un site internet, une lettre électronique mensuelle et les interventions dans les médias, ça ne coûte presque rien. Donc j'insiste là-dessus parce que pour l'association française transhumaniste Technoproc, il n'y a aucun financement privé ni aucun financement public. Et d'ailleurs, peut-être que ça c'est aussi ceux qui se définissent comme transhumanistes, non pas non plus aux États-Unis aussi, c'est un groupe relativement restreint, donc des gens comme Natasha Vitamore, Max Moore et même Rick Kurzweil, c'est des gens qui n'ont pas de financement en tant que transhumanistes. Donc Rick Kurzweil, à mon avis, sa rémunération est confortable. En plus, il a des revenus issus de brevets antérieurs. Mais il n'y a pas de financement en tant que transhumaniste. Et les gens qui sont classés comme transhumanistes, dans l'immense majorité des cas, ne vont pas utiliser le terme transhumanisme. Donc des personnes à Google n'utilisent le terme transhumanisme. Même pas sur le site de Google Calico pour lutter contre le vieillissement. Personne, à ma connaissance, non plus dans l'entourage d'Elon Musk, mais ça, il faudrait vérifier, et ainsi de suite. Voilà. Peter Thiel, peut-être. Je ne sais pas, il faudrait. Et pour moi, encore une fois, la question de la longévité est la question la plus importante. Ça peut être considéré comme une forme de transhumanisme, mais par exemple, le spécialiste du domaine le plus réputé au Bré de Gré ne va pas utiliser ce terme-là. Ce n'est pas de l'augmentation au sens... devenir plus grand, plus fort, plus intelligent, c'est de la conservation de ce que nous sommes. Donc c'est, pour le dire en termes écologiques, c'est permettre d'avoir dans un environnement durable un corps durable. Et donc je pense que ça a plein d'avantages, notamment au niveau environnemental.